Donc, je vous avais laissé la dernière fois en plein négociation, ce qui était déjà le cas de la situation précédente, d'ailleurs, puisque nous avons montré combien ces négociations étaient difficiles, d'une part, du fait de la confusion des négociateurs, division entre militaires et diplomates du côté israélien, et façon un peu cavalière dont Arafat traite ses négociateurs du côté palestinien, mais surtout parce que la déclaration de principe n'avait été possible qu'à cause de ces ambiguïtés et qu'au contraire, l'application implique de mettre fin aux ambiguïtés, donc d'aller très très loin dans les détails. Mais on progresse. Ainsi, Peres annonce que le statut définitif des territoires occupés devrait commencer à être appliqué après 3 ans d'autonomie et non pas 5, comme prévu par la déclaration de principe. Je cite « Nous avons décidé de donner aux Palestiniens un document de voyage qui est à la fois un laissez-passer et un passeport. Il portera à égalité les deux mentions. » Je rappelle que, de toute façon, le passeport n'est pas un symbole de nationalité. Ils apportent la protection d'un État, mais un étranger peut recevoir un passeport français. Ça veut dire simplement que la personne est protégée par l'État français et pas qu'elle est nécessairement française. C'est un point de droit. Avec un document de voyage est donné quand ce n'est pas un État qui est protecteur. C'est les apatrides qui disposent de document de voyage. Le document de voyage, c'est l'héritage de la Société des Nations, ce qu'on appelait le passeport Nansen dans l'entre-deux-guerres, qui avait donc créé des documents de voyage à la place de passeport pour permettre aux apatrides de se déplacer. Il portera à égalité donc les deux mentions d'une durée de 3 ans, date à laquelle sera instauré le statut définitif. Nous avons décidé de commencer les négociations sur le statut définitif au bout de la 2e année d'autonomie. Elles doivent s'achever 1 an plus tard. C'est pourquoi nous avons décidé que des laissez-passer d'une validité de 3 ans seront émis par les Palestiniens. C'est une solution élégante, originale et intelligente qui ne préjuge pas de la création d'un État palestinien. Alors, le 29 avril, moment important, après des négociations parallèles de plusieurs mois, l'accord économique israélo-palestinien est signé à Paris. C'est ce qu'on appelle le protocole de Paris. Il prévoit la création d'une zone de libre-échange entre les territoires occupés et Israël, des quotas sur certains produits, une TVA de 15% dans les territoires occupés contre 17% en Israël, la fixation de droits de douane communs avec des exemptions négociées, la création d'une autorité monétaire palestinienne qui contrôlera les banques et les flux de capitaux mais qui n'émettra pas de monnaie. Les Israéliens devront reverser 75% des cotisations sociales prélevées sur les salaires des Palestiniens travaillant en Israël. Le shekel, le dinar jordanien et le dollar seront les moyens légaux de paiement dans les territoires occupés. Pour Ahmad El-Khoreï, qui a négocié le protocole de Paris ou l'accord de Paris, qui a dirigé la délégation palestinienne, le protocole porte le symbole de la souveraineté palestinienne et pose les jalons d'un État palestinien indépendant, même s'il n'est pas question pour l'instant d'établir une monnaie. En fait, c'est plutôt le contraire. Le protocole établit une dépendance permanente de l'autorité palestinienne envers Israël en matière de revenus fiscaux, puisque la ressource essentielle demeure les taxes douanières qui seront levées par Israël et reversées aux Palestiniens, puisque l'essentiel des importations palestiniennes passe par la douane israélienne. Donc, c'est les Israéliens qui lèvent les droits de douane et qui reversent ensuite aux Palestiniens. Les territoires palestiniens seront contraints de maintenir les mêmes taux de TVA que ceux pratiqués en Israël, ce qui implique l'impossibilité de concurrencer les produits israéliens et la non prise en compte des revenus per capita. Comme on le verra plus tard, un même prix du carburant et des produits de base ne représente pas la même chose comme charge pour la population, puisque le revenu moyen israélien est plusieurs fois supérieur au revenu moyen palestinien. Un litre d'essence ne représente pas la même part du revenu moyen entre les deux populations. Et donc, les Palestiniens sont donc contraints à s'aligner sur les prix israéliens. De façon générale, le protocole de Paris impose les mêmes règles à une économie développée et une économie qui a été en fait interdite pendant plusieurs décennies de développement. Les faits démontreront que l'accord ne permettra ni le développement ni l'indépendance économique. On aurait pu s'orienter vers une zone de libre-échange plutôt qu'une union douanière, ce qui aurait été préférable en termes de prospérité pour les Palestiniens, mais cela aurait impliqué de définir une frontière, ce qui est impensable dans le contexte d'une situation intérimaire. Les Américains, eux, restent toujours intéressés à un accord israélo-syrien. Comme l'accord avec les Palestiniens est maintenant assuré, il n'est pas possible pour Rabin d'utiliser ce prétexte. Christopher présente donc à Assad un ensemble de propositions convenues avec Rabin. L'évacuation du Golan se ferait en 4 ans et demi et 3 phases. La première, 9 mois après la signature, serait limitée et ne concernerait aucune des implantations israéliennes, peut-être un village druze. Le second retrait aurait lieu d'entre 18 et 24 mois et le troisième irait jusqu'à une ligne convenue entre les parties. Barak ajoute des clauses de sécurité divisant le territoire syrien en 4 zones, comprenant des mesures de démilitarisation et de limitation des armements. Les relations pacifiques, les retraits et les mesures de sécurité se conditionnent mutuellement. Pour les Américains, ce sont des positions maximalistes destinées à ouvrir des négociations. Assad répond à Christopher par des contre-propositions de même nature. Les mesures de sécurité auraient une portée géographique limitée et seraient de nature réciproque. Les relations pacifiques seraient conditionnées au retrait qui ne devrait pas prendre plus de 6 mois et à des accords de paix avec le Liban et la Jordanie. Surtout, Assad précise pour de bon qu'un retrait complet veut dire jusqu'aux lignes du 4 juin 67 et non pas jusqu'à la frontière de la Palestine mandataire. Autrement dit, la Syrie revendique les lambeaux de territoire palestinien, 66 km², qu'elle contrôlait en 1967. Indépendamment du refus de la Syrie de ne rien céder en matière de territoire arabe, cela correspond à une volonté ancienne de ce pays de remettre en cause la frontière fixée par les Français et les Britanniques qui lui interdit l'accès au lac de Tibériade, contrairement au tracé de l'ancienne province ottomane de Damas. Alors, pour essayer d'expliquer tout ça, la Syrie est en partie héritière de la province ottomane de Damas, qui en fait s'étendait jusqu'à Aqaba. Et en général, la frontière suit le tracé de la province ottomane de Cham, donc de Damas. Mais à l'époque ottomane, la province de Damas allait jusqu'au lac de Tibériade. Et les arbitrages franco-britanniques ont déplacé la frontière à 10 mètres du lac de Tibériade. Ce qui crée l'absence de droit pour la Syrie sur l'eau du lac de Tibériade. Tandis que si la frontière était sur le lac, la Syrie aurait des droits sur le lac. Donc, vous voyez la complexité du dossier. Et ça, c'était une vieille revendication des Syriens, même avant la création de l'État d'Israël, de revenir sur le lac. Et en fait, la Syrie l'avait obtenu dans l'accord d'armistice de 1949. Alors, pour ajouter une petite complication supplémentaire à ce genre de questions, il est toujours très difficile de définir une frontière par rapport à un lac ou un fleuve. Pour une raison tout à fait simple, c'est que les lacs et les fleuves, ça bouge. En fonction du niveau d'eau dans le lac de Tibériade, la frontière se déplace. Donc, vous voyez, tout ce problème dont les Américains, semble-t-il, ne se doutaient absolument pas au départ. Ils découvrent le dossier que l'ONU lui connaissait par cœur, puisque l'ONU avait géré cette question entre 1949 et 1967. Ce qu'avaient fait les très riches heures de la commission d'armistice israélo-syrienne, dont certains peut-être se rappellent, puisque c'était mon cours dans les années 2004 ou 2005, où j'ai évoqué ces questions. Ça prouve qu'on progresse dans le temps. Jusque-là, les Israéliens n'avaient pas pris au sérieux cette revendication qui repose la question de l'accès aux ressources en eau. Ils se considèrent, comme je l'ai dit, comme l'unique héritier légitime de la Palestine mandataire. Et puis par ailleurs, l'OLP réclame aussi ces territoires comme étant des territoires palestiniens. C'était dans la première charte palestinienne. Alors, le fait que les Américains découvrent à ce moment-là cette revendication qu'ils ne connaissaient pas, au moins c'est ce que déclarent les mémorialistes de l'administration Clinton, Dennis Ross en particulier, ça témoigne surtout du fait que ces acteurs américains sont complètement imprégnés de la vision israélienne des choses et ne tiennent pas compte des perspectives arabes. De retour en Israël, Christopher s'oppose à Rabin. Pour le premier, la réponse syrienne est de même nature que la proposition israélienne, une position maximaliste ouvrant la perspective d'un marchandage. Après tout, Christopher est un juriste et il a l'habitude de faire des négociations, c'est un juriste d'entreprise. Donc il a l'habitude des négociations, on ouvre par des revendications maximalistes et puis ensuite on passe des compromis. Tandis que pour Rabin, ce n'était pas question de modifier ce qui apparaît déjà comme un sacrifice considérable. Pour Rabinovitch, le négociateur israélien, c'est le contraste flagrant, dit-il, entre la perspective d'un petit État s'accrochant fermement au moindre carré de terre et à tout iota de dignité, et celle d'une vaste superpuissance cherchant des compromis et des accords et traitant des préoccupations mesquines des parties locales avec un mélange d'impatience et de condescendance. Mais il ne vient pas à l'esprit de Rabinovitch que la Syrie et les Palestiniens partagent cette vision des choses, c'est-à-dire cette défense du moindre mètre carré, du moindre iota, du moindre symbole de souveraineté. Pour les Américains, un accord israélo-syrien entraînerait automatiquement un accord de paix avec le Liban et la Jordanie, faciliterait la gestion du dossier palestinien et isolerait totalement les deux fauteurs de troubles que sont l'Irak et l'Iran, les deux derniers États à résister à l'hégémonie américaine régionale. C'est dans ce climat un peu tendu que l'équipe américaine et Rabin se rendent le 3 mai au Caire pour la négociation finale avec Arafat sous le patronage de Moubarak. Il a été convenu qu'Arafat irait s'installer dans les territoires autonomes, s'appuyant sur un conseil de 24 membres. Il reste encore quelques points chauds non réglés. Arafat veut une enclave de Jéricho la plus grande possible, la responsabilité de la zone côtière sud de la bande de Gaza et un policier palestinien sur le pont Allenby, tandis que Rabin exige d'avoir la liste des 24 membres du Conseil palestinien. Les délégations travaillent tard le soir, dans la nuit, pardon, se mettant d'accord pour que les questions en suspens soient réglées après la signature. La signature a été fixée à 11h du matin, le 4 mai, au Caire, devant 1500 personnes, une sorte de répétition de la cérémonie de Washington. Arafat est le premier à signer les documents. Rabin s'aperçoit que le chef palestinien n'a pas signé les cartes incluses, enfin, du dossier. Il s'ensuit une sorte de psychodrame public à la grande colère des Égyptiens, Arafat n'acceptant finalement de signer qu'en échange d'une lettre de Rabin énumérant les points restés en suspens. La fête organisée par Moubarak est en partie gâchée. Le président égyptien s'en souviendra et ne s'impliquera plus directement dans la négociation. Deux explications non contradictoires ont été données au comportement d'Arafat. Il n'aurait pas été informé par ses subordonnés qu'il y avait un accord pour repousser les règlements des questions pendantes. Il aurait voulu montrer à son audience palestinienne que, tout en cédant sur l'essentiel aux demandes sécuritaires israéliennes, il s'accrochait jusqu'au bout au moindre mètre carré de la Palestine et à la défense de la dignité des Palestiniens. Alors, nous allons malheureusement devoir aborder l'accord intérimaire qui fait 19 pages plus 400 pages d'annexes et de cartes, témoignant ainsi de la précision de la négociation. Il est mis dans la continuité de la conférence de Madrid et constitue l'application de la déclaration de principe. Il fait donc partie du processus de paix. Et il est normalement inclus dans le passage à l'application des résolutions 242 et 338. Les Israéliens s'engagent à un retrait dans les trois semaines après la signature et un transfert de compétences du gouvernement militaire à l'autorité palestinienne. Alors, je vous ai sauté comme ça les trois premiers articles. On passe à l'article 4. Structure et composition de l'autorité palestinienne. 1. L'autorité palestinienne consistera en un organe de 24 membres qui mettra en œuvre et sera responsable de tous les pouvoirs et responsabilités législatifs et exécutifs qui seront transférés suivant cet accord et sera responsable de l'exercice des fonctions judiciaires. 2. L'autorité palestinienne administrera les départements qui lui seront transférés et pourra établir dans le cadre de sa juridiction d'autres départements ou unités administratives subordonnées. 3. L'OLP informera le gouvernement d'Israël des noms des membres de l'autorité palestinienne ainsi que de tout changement de ses membres. Article 5. Juridiction. Les prérogatives de l'autorité palestinienne comprennent toutes les matières qui tombent dans sa juridiction territoriale, fonctionnelle et personnelle, telles qu'exposées ci-dessous. A. La juridiction territoriale couvre le territoire de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, à l'exception des implantations et de la zone d'installation militaire, ce que vous pouvez voir sur la carte. Donc, en sombre, dans la bande de Gaza, l'ampleur des territoires sous contrôle israélien, les colonies Netzarim, Kaf Darom et le groupe de Katif, plus ce qu'on va appeler la route de Philadelphie, c'est-à-dire la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et pour l'enclave de Jéricho, vous voyez qu'elle est une vraie enclave puisqu'elle n'a accès à aucune, elle n'a pas d'accès à la Jordanie puisque le corridor à travers le pont Allenby n'a pas été accordé. La juridiction territoriale inclura la terre, le sous-sol et les eaux territoriales conformément aux dispositions de l'accord. La juridiction fonctionnelle n'inclut ni les relations extérieures, ni la sécurité interne et l'ordre public des implantations et de la zone d'installation militaire et des Israéliens et des sécurités extérieures. La juridiction personnelle s'étend à toutes les personnes tombant dans la juridiction territoriale, à l'exception des Israéliens. Autrement dit, il y a personnalité des lois, au sens total du terme, puisque n'obéissent à la juridiction palestinienne que les habitants palestiniens des zones autonomes, les Israéliens étant exclus de la juridiction de la zone autonome. L'autorité palestinienne jouit dans ses prérogatives des pouvoirs et responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires comme spécifiés dans l'accord. 3. Israël dispose de l'autorité sur les implantations, la zone d'installation. J'ai déjà dit ça, je crois. Israël exercera son autorité par le biais de son gouvernement militaire. Ces dispositions ne dérogent pas à la législation applicable par Israël aux personnes de nationalité israélienne. Alors, on joue de la distinction entre autorité palestinienne et OLP, article 6. En fonction des dispositions de cet accord, l'autorité palestinienne, dans le cadre de sa juridiction, jouera de pouvoirs législatifs ainsi que des pouvoirs exécutifs, rendra la justice par le biais d'un corps judiciaire indépendant, disposera entre autres du pouvoir de formuler des politiques, de superviser leur mise en œuvre, d'employer du personnel, d'établir des départements. L'autorité palestinienne n'aura pas de pouvoir et de responsabilité dans le domaine des relations étrangères, comprenant l'établissement à l'étranger d'ambassades, de consulats ou d'autres types de missions. L'OLP peut mener des négociations et conclure des accords avec des États ou des organisations territoriales au bénéfice de l'autorité palestinienne dans les seuls cas suivants. 1. Des accords économiques. 2. Des accords avec les pays donateurs. 3. Des accords pour la mise en application des plans de développement régional ou dans le cadre de relations multilatérales. 4. Des accords culturels, scientifiques et pédagogiques. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autorité palestinienne n'existe qu'en fonction du transfert de compétences du gouvernement militaire israélien. C'est-à-dire qu'elle ne dispose que de compétences déléguées du gouvernement militaire israélien. Une lecture purement juridique ferait de l'autorité palestinienne un organe du gouvernement militaire israélien. D'où le doublé avec l'OLP, puisque les relations extérieures ne peuvent pas être des compétences déléguées. Elles sont à l'OLP, qui est signataire de la déclaration de principe et de l'accord Gaza-Jéricho, et non pas de l'autorité palestinienne, qui, elle, n'est de ces accords qu'a conclu l'OLP. J'espère que c'est assez clair, hein. Donc, je cite, « L'autorité palestinienne aura le pouvoir, dans les limites de sa juridiction, de promulguer des actes législatifs incluant des lois fondamentales, des lois et règlements et d'autres législations. Les actes législatifs doivent être en accord avec les dispositions de cet accord. Dans un délai de 30 jours après la communication d'actes législatifs, Israël peut demander au sous-comité de législation de déterminer si ces actes excèdent la juridiction de l'autorité palestinienne. » Donc, traduction en clair, l'autorité israélienne dispose d'un droit de veto sur toute décision juridique de l'autorité palestinienne. Si le sous-comité de législation est incapable de se décider dans un délai de 15 jours, la question sera portée devant un conseil de révision composé de deux juges, un de chaque côté. Les lois et règlements militaires effectifs dans la bande de Gaza ou dans la région de Jéricho antérieurement à la signature de cet accord demeureront en vigueur, sauf en cas d'amendement ou d'abrogation en conformité avec le présent accord. Alors, on crée l'autorité militaire, enfin, la police palestinienne. Israël continuera d'assumer la responsabilité de la défense contre les menaces extérieures, y compris la responsabilité de protéger la frontière égyptienne et la ligne jordanienne, la défense contre les menaces extérieures maritimes ou aériennes, ainsi que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens et des colonies. Et on s'engage à coopérer. Tout ça dans une atmosphère de compréhension, dans une tolérance mutuelle, en évitant toute provocation, notamment en matière de propagande hostile. Ça, on rêve. Des deux côtés, je parle. Israël et l'autorité palestinienne coopéreront dans la lutte contre le crime, y compris les délits relatifs au trafic de drogue, à la contrebande et aux atteintes à la propriété. Alors, on fait des mesures de confiance et on affirme que les Palestiniens s'engagent à ne pas persécuter les collaborateurs. La signature du 4 mai 1994 est le début de la période intérimaire de 5 ans. Ça, c'est essentiel sur l'agenda, puisque normalement, on aurait dû passer à la solution définitive en mai 1999. Alors, les annexes détaillent de façon extrêmement minutieuse la composition, l'armement, les mouvements de la police palestinienne, les arrangements déjà conclus sur la gestion des postes frontaliers, ainsi que le protocole de Paris. Tout ça est réintégré dans l'accord. Alors, avec ces 5 mois de retard sur l'échéancier, l'accord du 4 mai est reçu avec circonspection par les parties concernées. On est loin des effusions lyriques du temps de la signature de la déclaration de principe. La droite israélienne, les islamistes et la gauche palestinienne parlent de jours de deuil. L'urgence la plus immédiate est l'arrivée de l'aide internationale, plus ou moins conditionnée à la signature de l'accord. Il faut reconstruire toute l'infrastructure des territoires occupés, dans un état particulièrement déplorable après plus d'un quart de siècle d'occupation israélienne. Pour la bande de Gaza, on a pu parler de dédéveloppement. Les structures productives ont été distordues par le frein imposé par Israël à la production industrielle et de la dépendance envers les transferts venus de l'extérieur. Aide arabe internationale, transferts familiaux et les salaires des travailleurs en Israël. L'agriculture, la construction et les services sont donc les secteurs dominants. On va faire un peu d'économie. Vous avez là donc la structure de la production dans les territoires occupés palestiniens en 1992. Vous voyez que pour la Cisjordanie, l'agriculture représente de 43 à 45% du pays produit intérieur brut. Gaza, 25 à 26%. L'industrie, 7-8% en Cisjordanie, 11% à Gaza. La construction, 10-11% en Cisjordanie, 21% à Gaza. Services publics et communautaires, 9% pour la Cisjordanie, 16-17% pour Gaza. Et autres services, 29 et 28%. On voit que la main-d'œuvre est en partie utilisée en Israël, puisque 29% de la main-d'œuvre de la bande de la Cisjordanie travaille en Israël et 27% de la main-d'œuvre de Gaza travaille en Israël. La structure des échanges est simple. Les importations des territoires, c'est 89,7% venant d'Israël, 7,7% venant de Jordanie et 9,5% pour d'autres pays. Et les exportations, Israël reprend 85,4% des exportations. Vers la Jordanie, 12,9%, autres pays, 1,8%. Approximativement 60% des territoires occupés, la superficie des territoires occupés, ont été accaparés par Israël sous différents prétextes. Entre 1967 et le début des années 1990, la consommation en eau a augmenté de 10%, alors que la population a doublé. La consommation, donc, en eau arabe, si j'ose dire, 200 millions de mètres cubes à 215-228 millions de mètres cubes, alors que la consommation des colons est passée de 0 à 45 millions de mètres cubes, soit trois fois plus per capita. Le gouvernement militaire, sous le nom d'administration civile, a favorisé le développement des services sociaux et de la santé au détriment des investissements de développement. Il emploie 21 000 Palestiniens comme fonctionnaires. L'action des ONG était aussi orientée vers les services. L'essentiel du budget public passe à la santé et à l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement supérieur, les nombreuses universités palestiniennes, sont financées de l'extérieur. En 1993, la situation économique s'est considérablement dégradée du fait de l'intifada, de la répression israélienne, de l'effondrement de l'aide fournie par l'OLP, en raison de sa crise financière et de la diminution de l'aide arabe et des transferts familiaux. Ceci étant lié à la chute des prix du pétrole après la guerre du Golfe de 90-91. Encore une fois, toute l'économie du monde arabe est rythmée par le rythme de la rente pétrolière. Donc quand la rente pétrolière baisse, elle entraîne une baisse générale des revenus de l'ensemble du monde arabe, du Golfe à l'océan. Et donc là, pour la Palestine, c'est tout à fait caractéristique, mais c'est aussi vrai pour le Liban ou pour la Syrie. L'augmentation de l'aide étrangère ne compense que très partiellement la chute des aides arabes. 173,9 millions de dollars en 92, 262,8 en 1993, en comptant l'UNRWA. Comme pour l'aide arabe, elle finance un très large secteur d'ONG, Il y a environ de 1200 à 1500 ONG travaillant dans les territoires. Ce qui fait que les ONG constituent une masse à peu près égale, sinon un peu supérieure, à l'administration du gouvernement militaire israélien. Puisque, en gros, les emplois des ONG dans les années 90 varient entre 20 à 30 000 personnes. Alors, si vous faites des calculs, et si 1200 à 1500 ONG, en sachant que le secteur privé est essentiellement composé d'entreprises de moins de 10 salariés, la moyenne des ONG, d'emplois d'ONG, la moyenne de gens employés par les ONG est supérieure à la moyenne des gens employés par une entreprise privée. C'est l'une des distorsions de l'économie palestinienne. L'aide extérieure s'établit sur le modèle de la reconstruction après conflit, très représentatif du dernier quart du XXe siècle. Cambodge, Angola, Namibie, Salvador, Bosnie, etc. On utilise la formule magique du plan Marshall, mais la réalité politique est bien différente en Palestine. Ailleurs, on trouve soit des autorités étatiques indépendantes, soit une mise sous tutelle internationale de fait, soit un mélange des deux, ce qui permet une gestion centralisée effective de la reconstruction dans une perspective développementaliste et technocratique. Le cas palestinien est unique, puisque l'effort doit passer sous les fourches codines de l'occupation israélienne, avec un État à construire pratiquement à partir de rien, et dont la définition même est un enjeu politique majeur. Inversement, le retentissement d'un conflit que l'on définit maintenant comme israélo-palestinien et non plus israélo-arabe attire les bonnes intentions, bien plus que les arrière-cours misérables du tiers-monde. Mais il faut aussi prendre en compte les exigences légitimes des pays donateurs sur l'utilisation à bon escient des aides financières. Les donateurs exigent de travailler sur des projets clairement définis dans la plus grande transparence, alors qu'Arafat tient à son contrôle personnel de l'usage des fonds et se méfie de ce qui pourrait apparaître comme l'émergence d'un pouvoir concurrent au sien. Il a un besoin vital de l'aide internationale, mais il ne veut pas qu'elle établisse des centres de pouvoir concurrents. Il fait ainsi appel au nationalisme contre un conditionnalisme qui l'assimile à une mise sous tutelle étrangère, ce qui n'est pas faux. De plus, les donateurs veulent des réalisations visibles servant à justifier leur contribution et sont bien plus que réticents à prendre en charge les frais de fonctionnement des institutions palestiniennes. Bref, ils sont prêts à payer les bâtiments, mais non les salaires des fonctionnaires qui y sont dedans. Ça, c'est un travers bien connu en France, où les ministères adorent créer des bâtiments, mais détestent payer les gens qu'on y met dedans. Donc, on crée toujours de nouvelles institutions, et puis ensuite, on oublie qu'il faut les entretenir. Le 25 mai, Terje Larsen sera nommé coordinateur spécial des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. J'évoquais déjà ça la semaine dernière. Il est chargé de coordonner l'action de l'ensemble des agences de l'ONU en Palestine, d'une part l'UNRWA, le PNUD et l'UNICEF. À côté de la Banque mondiale et du comité ad hoc des pays donateurs déjà présidé par la Norvège, l'ONU sera la troisième grand intervenant dans le domaine de l'aide. Près d'une trentaine d'agences internationales vont intervenir à titre divers. On va se trouver souvent dans une situation de concurrence des acteurs de l'aide internationale, d'autant plus que ces derniers doivent prendre en compte les contraintes politiques des donataires. Ainsi, l'aide américaine très substantielle sera très largement coordonnée avec les responsables israéliens, tandis que les Européens chercheront plutôt à diminuer la dépendance des Palestiniens envers Israël. Aussi, le mécanisme qui se met en place en 1993-1994 suscite l'émergence d'un nouvel acteur très hétérogène, celui de l'aide internationale, dont la mission se veut à la fois de contribuer à l'édification d'un État palestinien même si la bienséance politique interdit de le dire. Le vocabulaire est toujours le même, celui de l'empowerment, autonomisation ou capacitation, c'est-à-dire la prise en charge de l'individu par lui-même, de sa destinée économique, professionnelle, familiale et sociale, et aussi au discours du renforcement de la société civile par le financement des ONG. Et donc, la tentation pour l'aide, enfin le problème pour l'aide internationale, c'est de savoir si elle doit financer directement l'autorité palestinienne ou si elle passe par les ONG palestiniennes. Alors, selon les périodes et en fonction des conjonctures politiques, ce sera l'un ou l'autre, avec des coups d'accordéon dans un sens ou dans l'autre. Et moi, il m'est arrivé de me promener dans les territoires occupés. C'était dans cette période, c'était terrible, parce que vous ne pouviez pas soulever un caillou sans vous dire que ce caillou n'avait été soulevé que grâce à l'aide du Canada ou de la Suède ou de la Norvège ou de la France, et ainsi de suite. Il y avait à la fois un déluge d'aide internationale, mais chacun voulait marquer qu'il avait fait quelque chose. Alors l'application connaît dès le début des contretemps. La police palestinienne sous-équipée n'arrive que par petits groupes, ce qui ralentit la transmission des locaux. Ces locaux, d'ailleurs, ne sont que des coquilles vides, les Israéliens emportant avec eux tout ce qui est transportable, y compris la tuyauterie et les fils électriques. De plus, les Israéliens vérifient le dossier individuel de chaque policier avant de le laisser entrer. Tout en exerçant ses contrôles minutieux à l'entrée, ils laissent le champ libre aux faucons du Fatah qui exercent de fait les fonctions de police et abordent publiquement leurs armements. Les questions de procédure se multiplient. Les Américains se sont engagés à fournir des véhicules venus des stocks militaires en Europe à la police palestinienne. Pour des raisons légales, ils doivent passer par l'aide américaine à Israël, ce qui est inacceptable pour les policiers palestiniens qui ne doivent pas apparaître comme étant équipés par les Israéliens. Finalement, on trouve un arrangement pour faire passer les véhicules par le Sinaï. La libération des prisonniers se déroule à un rythme ralenti. Quant à Arafat, il a du mal à obtenir la cooptation d'un certain nombre de personnalités de territoire occupé à son conseil de l'autorité palestinienne. Le 14 mai, la Knesset entérine l'accord Gaza-Jéricho par 55 voix contre zéro, les députés de la droite ayant quitté l'hémicycle du Parlement avant le vote. Mais je ne suis pas sûr que les Israéliens aient un hémicycle. Là, il faudrait que je vérifie. Je crois qu'ils ont un Parlement à l'anglaise, c'est-à-dire un rectangle. Donc, expression à corriger. Parce que vous savez qu'il y a deux types de parlements. Il y a les parlements rectangles et les parlements en demi-cercle. Donc, bon coup pour la métaphore. À la mi-mai, la situation se stabilise. Les policiers palestiniens sont accueillis dans une atmosphère de liesse générale. Les premiers prisonniers arrivent. Jéricho, le premier territoire à arborer le drapeau palestinien à la place de l'étendard palestinien. L'étendard israélien, excusez-moi, ça ne voulait rien dire. Christopher revient dans la région pour une nouvelle tournée consacrée au dossier israélo-syrien. Assad accepte le principe de l'interfaçage, interfacing, entre les différents chapitres de l'accord. Mais Rabin refuse de donner une clarification sur la question des lignes du 4 juin 67. Ross s'active à trouver des formules de compromis. Le secrétaire d'État sera aussi à Jéricho, mais l'OLP exige aussi une rencontre à la Maison de l'Orient à Jérusalem. Les Américains refusent et Faisal et Husseini menacent de boycotter les réunions. On trouve le compromis de tenir une réunion de travail au consulat américain à Jérusalem-Est. C'est que la position officielle américaine considère que, selon la déclaration de principe, la question de Jérusalem doit être négociée durant la phase finale, donc on ne peut plus mentionner Jérusalem-Est comme territoire occupé. Il vaut d'ailleurs mieux éviter de mentionner la ville sainte d'un point de vue général. Tout en affirmant qu'il n'y a pas de changement de politique, l'administration Clinton ne pose plus que les colonies constituent un obstacle à la paix, « an obstacle to peace », Ça, c'était la position de l'administration Bush qui l'avait précédé. Mais un facteur de complication, complicating factor. Elle ne veut pas prendre de position sur la légalité des implantations. De façon générale, tout en croyant conserver sa position d'honnête courtier, l'administration Clinton a adopté le point de vue israélien que tout est à discuter et que donc la légalité internationale définie précédemment par un ensemble complexe de résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale de l'ONU, s'appuyant entre autres sur les conventions de Genève, n'est plus pertinente dans le dossier palestinien. Pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est toute l'importance donc créée par la section de la Palestine au statut d'État non membre observateur à l'ONU, c'est que maintenant elle peut saisir les tribunaux internationaux sur ces dossiers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout en cherchant sincèrement à aider les Palestiniens, les négociateurs américains ne font qu'accommoder les positions israéliennes en proposant diverses incitations. La presse israélienne découvre une déclaration d'Arafat prononcée la semaine précédente dans une mosquée en Afrique du Sud où il appelait au djihad pour libérer Jérusalem et invoquait une lettre secrète dans laquelle les Israéliens s'engageaient à ce que le statut de la ville sainte soit négocié, les Palestiniens étant responsables de tous les lieux saints chrétiens et musulmans de la ville. Il a aussi déclaré que l'accord avec Israël était de même nature que la réconciliation, sulh, conclue par le prophète avec Quraysh, en 627. Ce pacte conclu pour 10 ans n'avait duré que 2 ans. Le gouvernement israélien dément l'existence de la lettre et considère que la déclaration est une violation grave de l'accord qui risque de le remettre en cause. Le chef de l'OLP récise qu'il a utilisé djihad dans le sens d'effort et non de guerre. Quant à la référence au prophète, c'est Quraysh qui a rompu l'accord et non le prophète. Quant à éviter la propagande hostile selon ce qui est prévu par l'accord, le gouvernement israélien n'en a pas les moyens. Des appels au meurtre d'Arafat sont régulièrement lancés dans les milieux de la droite israélienne, en particulier de la part de l'ancien grand rabbin Shlomo Goren, pour qui, je cite, « tuer Yasser Arafat est un commandement religieux pour tout à chacun ». Fin de citation. La tentation reste très forte à Hébron. Les colons provoquent des affrontements le 16 mai qui font un mort palestinien et 18 blessés. Les observateurs constatent les faits. J'ai oublié de vous donner ça pour Jéricho. Quant à éviter la propagande hostile, oui, donc, la tentation reste très forte à Hébron. Les colons provoquent des affrontements le 16 mai qui font un mort palestinien et 18 blessés. Les observateurs constatent les faits et se retirent après le bouclage imposé par les militaires. Le lendemain, 2 colons sont tués et un autre grièvement blessé dans un attentat revendiqué par le Hamas. La ville est mise sous couvre-feu total. Dans la nuit du 17 au 18 mai, l'armée israélienne évacue ses dernières positions dans la ville de Gaza sous une pluie de pierres et de bouteilles vides. En fait, c'est souvent des moellons à Gaza, puisque comme c'est sableux, ce sont des morceaux de briques, etc., qu'on envoie, tandis qu'en Cisjordanie, ce sont des vraies pierres. C'est un point de détail. Le 19 mai, Jibril Rajoub et Mohamed Dahlan arrivent réciproquement en Cisjordanie dans la bande de Gaza pour assurer la sécurité préventive. Les comités de liaison avec les autorités israéliennes sont mis en place, mais l'application des accords reste difficile. Il n'y a pas encore de traduction arabe doublée d'un commentaire des textes rédigés en anglais. Les Palestiniens font tout pour apparaître comme des libérateurs, alors que les Israéliens veulent marquer qu'il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'un redéploiement. Les difficultés commencent tout de suite. Le 20 mai, 2 soldats israéliens sont tués à Eretz, le point de passage entre la bande de Gaza et le territoire israélien, dans un attentat revendiqué par le djihad islamique, tandis que la veille, un colon a été grièvement blessé dans une attaque revendiquée par le Hamas. La police palestinienne, qui n'a encore qu'une partie de ses effectifs et qui dépend de la population pour assurer sa nourriture et le carburant pour ses véhicules, n'a pas bougé. L'armée impose un nouveau bouclage jusqu'au 29 mai, tandis que les premières patrouilles conjointes sont mises en place. Pour Rabin, je cite, « tant que nous n'aurons pas la preuve que la police palestinienne assume le rôle contrôle effectif civil à Gaza et à Jéricho », nous ne mettrons pas en œuvre la phase suivante des accords. » Fin de citation. Un tract du Hamas adresse un avertissement à l'ONP, je cite, « La dernière chose dont les Palestiniens aient besoin, c'est d'une guerre entre le pouvoir en place et ceux qui portent la bannière de l'islam. Nous ne voulons pas voir ce qui se passe en Algérie, en Égypte ou ailleurs. Disons-le clairement, pour ce qui concerne les luttes internes, la balle est dans le camp de l'ONP. » Fin de citation. Cette dernière répond qu'elle ne recherche pas la guerre civile. Finalement, les Israéliens lèvent le bouclage le 27 mai. L'autorité palestinienne naissante doit ainsi naviguer entre Israël et Hamas. D'un côté, Arafat, le 24 mai, annule toutes les ordonnances militaires israéliennes pour Gaza et Jéricho et rétablit toutes les législations antérieures, ce qui provoque les protestations de Rabin, qui rappelle que toutes les décisions législatives doivent être préalablement soumises à un sous-comité commun de législation. Le 30 mai, l'autorité palestinienne, toujours en formation, adopte un programme politique marque dans son préambule qu'elle est entièrement liée par les engagements pris par l'ONP, c'est-à-dire les échanges de correspondances, la déclaration de principe, l'accord Gaza-Jéricho. Mais en même temps, l'on affirme qu'elle est le prolongement de l'ONP et non implicitement le produit d'un transfert de compétences du gouvernement militaire israélien. Je cite. Créée par la décision de l'OLP, unique représentant légitime du peuple palestinien, l'autorité palestinienne est le prolongement de l'OLP. Celle-ci donnera sa légitimité à l'autorité et restera sa référence politique et juridique. L'autorité palestinienne est un pouvoir intérimaire qui exercera ses prérogatives jusqu'aux élections démocratiques générales dans les territoires palestiniens. Elle sera responsable de l'exécution du programme de la période intérimaire jusqu'à l'aboutissement du projet national et de la jonction de la période intérimaire avec le règlement final. Elle exercera un pouvoir exécutif complet et des prérogatives législatives provisoires jusqu'aux élections générales. De l'autre côté, le Hamas annonce l'arrêt des exécutions de collaborateurs afin de permettre à la police palestinienne d'accomplir sa tâche. Le 31 mai, deux militants du Hamas sont abattus par l'unité spéciale de l'armée dans la banlieue nord de Jérusalem, ce qui provoque des manifestations palestiniennes unitaires. L'enclave de Jéricho se trouve pratiquement isolée du reste de la Cisjordanie. Du surcroît, Rabin annonce que Arafat est persona non grata à Jérusalem durant toute la période intérimaire. En même temps, il s'en prend à la communauté internationale qui ne s'empresse pas de remplir ses engagements financiers envers les Palestiniens. Il faut que l'autorité palestinienne ait les moyens de payer les salaires des fonctionnaires et des policiers si on ne veut pas que le chaos s'installe dans les territoires autonomes. Le 6 juin, Peres est contraint de rendre publique la lettre adressée à Holst et datée du 11 octobre 1993, dans laquelle Israël s'engage à respecter le statu quo existant à Jérusalem et à y maintenir toutes les institutions palestiniennes existantes. Je cite. Cher ministre Holst, je souhaite confirmer que les institutions palestiniennes de Jérusalem-Est, les intérêts et le bien-être des Palestiniens de Jérusalem-Est sont d'une grande importance et seront préservés. Ainsi, toutes les institutions palestiniennes de Jérusalem-Est ayant trait à l'économie, au social, à l'éducation, à la culture, ainsi que les lieux saints chrétiens et les sites musulmans, remplissent un rôle essentiel pour la population palestinienne. Inutile de dire que nous n'entraverons pas leur activité, au contraire, l'accomplissement de cette importante mission doit être encouragé. Fin de citation. Mais pour le ministre israélien des Affaires étrangères, cela ne s'applique qu'aux institutions antérieures à la déclaration de principe, et non aux prochaines créations de l'autorité palestinienne. Le 10 juin 1994, les pays donateurs réunis en conférence à Paris acceptent de financer le démarrage de l'administration palestinienne en versant immédiatement 42 millions de dollars et surtout en acceptant d'affecter 25% des aides à l'investissement en dépenses de fonctionnement pour le courant de l'année 1994. Ensuite, les taxes levées par l'autorité palestinienne devraient prendre le relais. Les premiers cadres supérieurs de l'OLP arrivent dans les territoires autonomes. Chaque dossier individuel a été soigneusement examiné par les Israéliens. Les difficultés continuent. 287 détenus palestiniens libérés sont sommés de rester dans la zone de Jéricho jusqu'à la fin de leur peine. C'est une situation jugée injuste par l'OLP qui estime que cette clause ne concernait que les droits communs. Les détenus n'ont pas ainsi le droit de se rendre dans leur famille, en dépit de l'engagement pris de renoncer à la violence et de respecter le processus de paix. On se dispute sur les chiffres. L'armée israélienne prétend avoir libéré 3 400 prisonniers, tandis que les Palestiniens n'en comptent que 2 475. Nabil Shart, envoyé par Arafat, se voit refuser de se rendre à Jérusalem en visite privée et se trouve bloqué plusieurs heures à un barrage de l'armée israélienne à la sortie de Jéricho. Pour lui, je cite, « L'armée israélienne cherche à nous humilier et viole les accords. Je ne veux pas que le président subisse ce que j'ai moi-même subi au barrage militaire. » Fin de citation. Néanmoins, il conclut de son voyage exploratoire que la position du Hamas dans la bande de Gaza s'est considérablement affaiblie du fait de l'atmosphère de liberté qui y règne depuis le départ des troupes d'occupation. Le 28 juin, les négociations sur l'étape suivante de l'autonomie commencent au point de passage de Eretz à l'entrée de la bande de Gaza. On prépare l'entrée prochaine d'Arafat. Après avoir tardé à fixer la date, il annonce que ce sera dans 3 jours. À Washington, on prépare une nouvelle tournée de Christopher au Proche-Orient pour la mi-juillet. Alors, Arafat à Gaza. Le 1er juillet, Arafat passe le poste frontière de Rafah. Moubarak l'a accompagné jusqu'à la frontière. Selon le président égyptien, il était dans un état de choc, comme quelqu'un qui va se faire une piqûre, qui redoute l'injection et qui s'aperçoit lorsque l'aiguille pénètre que ce n'est rien. Je lui ai dit qu'il n'avait rien à craindre, qu'il serait bien reçu par son peuple. Fin de citation. C'est une extraordinaire explosion de joie dans la population palestinienne en dépit des efforts de ses gardes du corps pour lui interdire tout bain de foule qui risquerait de mettre en danger sa sécurité. Israël a mobilisé 8000 soldats et policiers pour assurer le maintien de l'ordre dans tout le pays. C'est l'opération Désert brûlant, allusion à la chaleur de l'été, mais aussi référence ironique à la guerre du Golfe. Dans ses prises de parole, Arafat appelle avant tout à l'unité. Je cite, « Je promets à toutes les familles que nous prierons à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. » Fin de citation. Il demande la libération de tous les prisonniers palestiniens, y compris le cher condamné à vie, le cher Yassine. De Damas, le Hamas déplore le fait qu'Arafat, qui fut le symbole de la résistance palestinienne, est contraint aujourd'hui de présenter une autorisation officielle du gouvernement sioniste pour se rendre à Gaza. Nous continuerons de riposter à l'occupation israélienne par la lutte armée. Ne disposant pas de locaux administratifs, le président de l'autorité palestinienne s'installe à l'hôtel Palestine, le seul à disposer de l'air conditionné. Les délégations se succèdent pour lui souhaiter la bienvenue. Le lendemain, il se rend dans le camp réfugié de Jabalia, où là, il se livre à un grand bain de foule, créant le contact avec le peuple évité la veille. Tout en reprenant les arguments de la veille, il prend la défense de l'accord passé avec les Israéliens, le meilleur que nous pouvions passer. Il s'en prend vivement aux pays donateurs. Je cite, « Vous savez, la Banque mondiale et les pays donateurs ont essayé de nous poser des conditions inacceptables. Ces conditions, je les ai refusées en votre nom, car je n'accepte pas que des non-palestiniens se permettent de gérer notre économie nationale. Enfin, nous n'allons tout de même pas passer d'une occupation politique à une occupation économique. » Fin de citation. Il se rend ensuite à Jéricho dans un hélicoptère prêté par l'Égypte. Les Israéliens lui ont interdit la voie de terre et le passage par Jérusalem. Netanyahou a lancé un appel à tous les citoyens soucieux de l'avenir d'Israël à se mobiliser pour la défense de Jérusalem. Fin de citation. Rabin s'inquiète du risque de troubles dans la ville sainte, voire d'une tentative des extrémistes de s'emparer des principaux ministères. De fait, les éléments radicaux ont déjà commencé à manifester avec pour slogan « Mort à Arafat et mort à Rabin ». Ça ne semble pas déranger les dirigeants du Likoud qui ont organisé les manifestations. À Jéricho, Arafat tient le premier conseil des ministres de l'autorité palestinienne avec les 12 premiers membres désignés. Faisal al-Husseini, chargé de Jérusalem, ne prête pas serment puisqu'Israël exige que toutes les nouvelles institutions siègent en dehors de la ville sainte. La première décision est d'installer le siège de l'autorité palestinienne à Gaza et non dans la petite enclave d'une cinquantaine de kilomètres carrés assez peu peuplée. La mobilisation populaire a été faible. 5000 Palestiniens seulement du fait des difficultés logistiques, de barrages de colons, d'entraves à la circulation de l'armée israélienne, mais aussi des réticences d'une partie de la population de la Cisjordanie toujours soumise à l'occupation. Le 6 juillet, Arafat, Rabin et Peres reçoivent à l'UNESCO à Paris le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix accordée par un jury international présidé par Henry Kissinger. Il s'ensuit un sommet qui adopte le 7 juillet une déclaration commune. Arafat s'engage à convoquer le Conseil national palestinien en vue de modifier la charte de l'OLP. On établira trois commissions, la première pour régler les questions laissées en suspens par l'accord du 4 mai, la seconde quadripartite avec la Jordanie et l'Égypte pour régler la question des personnes déplacées en 67, la troisième pour s'occuper de l'extension de l'autonomie au reste de la Cisjordanie. La question du Hamas n'est pas réglée. Le 7 juillet, une femme soldat et un colon sont tués près de Ramallah et près de Hébron. Cette dernière ville est soumise à un couvre-feu tandis qu'Israël somme l'OLP d'empêcher les attentats et de neutraliser le Hamas. Le 12 juillet, Arafat revient s'installer à Gaza. Il tente de faire passer dans son entourage cinq cadres de l'OLP non autorisés par Israël du fait de leurs activités précédentes. Arafat, humilié, doit céder. Il a bien cherché à contourner les accords, mais n'a réussi qu'à démontrer la faiblesse de sa position. Les événements du 17 juillet marquent la gravité de la situation économique de la bande de Gaza. Des milliers de travailleurs palestiniens se pressent au passage d'Eretz dans l'espoir de trouver du travail en Israël. Beaucoup n'ont pas de permis. Cela se transforme rapidement en une grande confusion. Les militaires israéliens tirant sur la foule qui lance des projectiles et vandalisent des installations. Les policiers palestiniens n'arrivent pas à contenir la situation et certains d'entre eux auraient tiré sur les Israéliens. Outre d'importants dégâts matériels, le bilan est lourd. Deux Palestiniens tués, plus une centaine de blessés, dont 17 Israéliens. Pendant qu'Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement, la bande de Gaza est bouclée pour une durée indéterminée. Une grève générale de protestation est lancée en Jordanie. Le 19 juillet, un officier israélien est tué par le Hamas à Rafah. L'opération est présentée comme une riposte au massacre d'Eretz. Lors de sa tournée, Christopher se rend dans la bande de Gaza pour rencontrer Arafat. Il ne prend aucun engagement sauf d'aider les Palestiniens à préparer les documents comptables nécessaires pour obtenir l'aide des pays donateurs. Au début du mois d'août, Israël refuse de renouveler le mandat de la présence internationale temporaire à Hébron, TIPH. Son bilan est mitigé puisqu'elle n'est pas une force d'interposition. Pourtant, selon son porte-parole, durant son exercice, aucun Palestinien n'a été tué et le nombre d'incidents est tombé à 3 par jour contre 10 à son arrivée. Je cite, « À notre contact, les soldats israéliens ont adopté une attitude plus humaine à l'égard de la population palestinienne. » Fin de citation. On a peur qu'après son départ, on revienne à la violence ordinaire de cette cité de la haine. Depuis l'attentat, le caveau des patriarches est fermé dans l'attente de l'achèvement des travaux conduisant à une séparation totale des fidèles musulmans et juifs. Pour les musulmans, cette séparation est inacceptable puisqu'elle conduit à transformer une mosquée en synagogue. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que vous méritez autant que moi une pause, un arrêt. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie.